Cela?
Ça va français.
Français, c'est le meilleur au monde.
British, British.
Oh mon Dieu.
Do you consider yourself a patriot?
Aïe, vas-y.
I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center.
There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all.
Special for you to remember Israel.
Shalom, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Falafel Cinéma. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adi Walter, qui a réalisé un film qui s'appelle Shtetl et qui sort en salle mercredi 13 décembre. Shtetl se déroule en juin 1941 dans un village ukrainien à la frontière polonaise, 24 heures avant l'opération qu'on a appelée l'opération Barbarossa, qui frappe près de 5 millions de morts. Dans cette histoire, qui est une sorte de Roméo et Juliette, un petit peu tournée en yiddish, un mariage va avoir lieu. Mais voilà, cet événement va être contrarié par le retour d'un ancien prétendant. Alors, tout d'abord, une question un petit peu évidente pour toi, Lagat, tu as dû beaucoup répondre. Pourquoi Shtetl? Pourquoi ce film?
Moi, j'ai un problème, j'allais dire presque d'historiographie du cinéma avec les films qui traitent de la Shoah, c'est-à-dire au sens où moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, à titre personnel, je sens qu'il y a presque une interdiction de la représentation de la destruction, en vérité. Donc, moi, je comprends pas vraiment comment on peut mettre ça en scène. Il y a des cinéastes de très grand talent qui l'ont fait, hein. C'est plus une réflexion personnelle qu'un jugement de valeur sur ce que les autres ont fait. C'est juste que moi, ça me paraît impossible. Donc, j'ai cherché, je pense, de manière, inconsciente, parce qu'au fait l'idée elle m'est venue de manière très naturelle, vraiment d'un coup, c'est-à-dire et l'histoire et le dispositif. Mais je pense que de par ce problème que j'avais avec l'historiographie des films qui traitaient du sujet, ouais. Je me suis dit en fait voilà, qu'est-ce qui peut nous donner à sentir ou nous donner à comprendre tout ce qui a été enlevé, tout ce qui a disparu, tout ce qui a été détruit. Donc, si je fais un film sur la vie, c'est-à-dire si je fais, par exemple, les dernières 24 heures d'un petit village juif en Galicie, ce qui est l'objet de mon film, ouais. Peut-être qu'en montrant la vie dans toutes ses dimensions, dans toute sa pluralité, dans tout ce qu'elle a de vibrionnant et de vibrante, ouais. Peut-être qu'on comprendra, si je fais ce film-là, ce qui a été retiré et assassiné. Retiré de l'humanité et assassiné dans un geste criminel. Je me suis dit la meilleure manière de parler de la Shoah finalement c'est de montrer la vie et pas la mort et la destruction, c'est-à-dire de montrer ce qui était vivant et ce qui ne l'est plus.
Oui, alors justement par rapport à ça, il y a au niveau du décor, il y a tout un shtetl qui a été reconstitué justement en Ukraine. Hein. Est-ce que tu peux nous parler du temps que ça a pris et comment t'as procédé?
Oui, alors c'est une entreprise un peu viscontienne, hein, c'est un peu fou. Hein, on a fait un travail, j'allais dire presque d'architecte. Il a fallu travailler déjà à partir des archives avec Ivan Levchenko, qui était mon production designer, donc mon directeur artistique, et puis la chef déco Yulia Antikova. Donc on a travaillé tous les trois vraiment de manière extrêmement précise sur comment reconstituer ce shtetl. Ça, c'était la phase, j'allais dire, vraiment de prépa, et puis ensuite est venu le temps de la construction, et là la construction ça a été un véritable défi, parce qu'il y avait une trentaine de maisons qu'on avait l'intention de construire, une trentaine d'unités d'habitation ou de commerce ou de voilà, il y a une boucherie, il y a évidemment une choule, enfin une synagogue, etc. Donc, ça a été une entreprise parce que à l'époque on devait tourner le film en 2020 et puis il y a eu le Covid. Ouais. Donc il y avait un budget pour la construction du décor qui était assez important, mais qui était gérable. Et puis après le Covid, on revient donc préparer la construction du décor, et là ouais. Le prix du bois a doublé.
Ah oui, et d'accord.
Les Chinois avaient préempté tout le bois disponible en Ukraine.
D'accord.
Donc c'est une époque, pour ceux qui se rappellent de l'actualité, il y avait beaucoup de sujets d'actualité ou de presse ou de médias ou de sur le prix du bois. Parce que le bois devenait extrêmement cher, donc.
D'accord.
Donc on a dû le budget avait doublé, donc on a dû trouver des solutions et le chef décorateur, enfin l'équipe de décorateurs a dit ok, on va prendre 2-33 tonnes et puis on va aller acheter des petites maisons dans des, on va aller acheter des petites izbas, des petites maisons dans des jardins.
D'accord.
Et donc c'est ce qu'on a fait, donc on est parti acheter à des paysans des maisons qui des sortes de cabanons de qui tombaient un peu en ruine, et
ouais.
On les a découpés, débités,
ouais.
Comme ça, on les a reconstruits. Et en fait, ce qui donne du coup au décor une patine,
ouais.
Certaines de ces maisons étaient très anciennes.
Ouais.
Donc, ça a donné, c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça a donné au décor une espèce de patine
ouais.
Qu'on n'aurait jamais eu autrement. Donc,
ouais.
ce sont véritablement d'anciennes maisons.
Ouais, une forme de réalité, en fait.
Tout à fait.
Mm-hmm.
Et après, c'est vrai que tout l'enjeu, c'était de construire ce shtetl de manière aussi à ce que la caméra puisse circuler à l'intérieur, ce qui est encore l'autre partie du défi.
Oui, alors est-ce que tu t'es inspiré d'un shtetl en particulier, ou est-ce que...
Oui, sur le shtetl, on a travaillé à partir de sources qui étaient vraiment galiciennes, c'est-à-dire vraiment, puis là, en l'occurrence, on était en Ukraine occidentale, donc l'histoire se passe en Ukraine occidentale, donc On a vraiment cherché à être fidèle à ce que pouvait être un shtetl en 1900, enfin au moment en tout cas de la où les soviétiques prennent le contrôle de ce territoire,
mm-hmm.
avec de petites modifications, par exemple le fait que les soviétiques avaient électrifié aussi toute une partie de ces endroits, ce qui n'existait évidemment pas du tout avant l'arrivée des soviétiques.
Ouais.
Aussi, on est dans une zone frontalière, l'Allemagne nazie dont l'histoire du film est juste en face, donc.
Ouais.
On a été assez fidèle à ce que ça a été.
Ouais.
Mais par exemple, dans le cas de la choule, dans le cas de la synagogue, j'avais comme ambition de ne pas faire une synagogue typiquement galicienne ou typiquement d'Ukraine occidentale. C'est-à-dire, je voulais qu'elle incarne ou qu'elle représente ou qu'elle porte en elle tous les styles ashkénazes, enfin, c'est-à-dire plus exactement tous les styles du Yiddishland, c'est-à-dire presque qu'on y retrouve des éléments qui aillent de l'Alsace presque jusqu'à la Sibérie, c'est-à-dire en fait, bon, même si le Yiddishland c'est pas exactement ça, mais enfin il y a un arc, en tout cas, dont l'origine se situe là, comme ça, en Alsace, dans le pays de Bade et tout ça, puis qui va par le Yiddish jusqu'en Sibérie. Donc j'ai voulu presque qu'on ait une sorte de symbiose des styles, parce que pour moi c'était plus, cette synagogue elle portait plus que l'histoire particulière que le film met en scène, hein, c'est-à-dire elle porte aussi, elle est symbolique, donc elle est aussi
bien
symbolique d'une civilisation entière qui a été éradiquée.
Oui, tout à fait. Et justement, puisque tu parles du Yiddish, ça fait quelque chose de très fort avec ce film, puisqu'il est tourné en Yiddish entièrement, je crois. Et au niveau de la direction d'acteur, j'ai vu que tu avais travaillé avec Talever Shibovsky.
Oui.
Est-ce que les acteurs et les actrices, alors il me semble que oui, ont un lien avec le Yiddish par ailleurs?
Oui, alors il y a une pluralité d'acteurs, ça c'est un casting international, donc on a effectivement casté des acteurs aux États-Unis, beaucoup, au Canada, en Angleterre, en Israël, en Pologne, en Ukraine. Donc il fallait trouver des gens qui étaient capables de jouer en Yiddish de manière fluide et rapide, en particulier des jeunes.
Ouais.
Tal a travaillé plutôt sur les petites voix, c'est-à-dire en fait tous les petits rôles, presque les rôles minuscules qu'on entend toujours derrière.
D'accord.
Mais j'ai travaillé avec un coach qui s'appelle Lily Rosen.
D'accord.
Qui est, pour ceux qui connaissent, celui qui a coaché les acteurs de la série Unorthodox sur Netflix.
D'accord, ouais.
Et aussi le rôle du rabbin dans la série Unorthodox.
Ouais.
Une sorte de rabbin alcoolique, qui est assez figure assez noire de la série.
Ouais.
Il joue également dans mon film, il joue un rôle de chassid, de ce qu'on appelle les breslev, c'est-à-dire en fait ils sont des mystiques qui aiment bien aller dans la nature, s'adresser à Dieu et crier leur désarroi, etc. Donc il a un très beau rôle dans le film. Et c'est lui qui était le coach aussi donc des acteurs. Il a eu un rôle effectivement très important. Ceci étant, c'est vrai que j'ai plusieurs acteurs dont le Yiddish est la langue de naissance, la langue d'origine. Ils ont grandi dans le milieu yiddish. Ça, c'est le cas des Américains. C'est son cas à lui, par exemple. Il a un rôle dans
ça, le film. Saul Rubinek, tu parles?
Saul Rubinek, c'est un peu différent. Alors, Moshe Lobel, qui joue le personnage de Mendeleu, qui est le rôle principal, lui, il est dans un milieu yiddishophone. Même chose, donc, pour Lily Rosen, j'évoquais la figure à l'instant. Saul Rubinek, c'est sa langue maternelle, au sens où c'est la langue qu'il a parlé dans la toute petite enfance.
D'accord.
Il est né à Munich en 1945, donc il est né dans un endroit où s'étaient regroupés un certain nombre de gens, enfin de personnes, ce qu'on appelait les personnes déplacées à l'époque. Donc c'est un très grand acteur canadien, Saul Rubinek, il est connu des cinéphiles, c'est l'acteur canadien presque le plus connu en fait en vérité. C'est un habitué des films des frères Coen, c'est un très grand acteur, il a fait des films comme Wall Street, etc., avec Michael Douglas, où il a le troisième rôle quasiment. Voilà, et lui, c'est vrai que ça lui tenait à cœur de jouer en yiddish, parce que il a perdu cette langue très vite, il a émigré au Canada, et en particulier au Québec, quand il était très petit, donc c'est une langue qui lui a été un peu, j'allais dire, à retirer, parce que elle a subsisté d'une certaine manière dans sa culture et dans peut-être autour de lui quand il était enfant, mais très vite, dans sa famille, ils se sont mis à parler autre chose. On parle d'abord le français, puis ensuite l'anglais. Donc il y avait un retour voilà pour lui très important à la langue des origines, et puis j'ai une jeune actrice formidable qui s'appelle ukrainienne, qui joue le rôle de Yuna, qui s'appelle Anicia Stasevich, et elle qui est d'origine juive, son grand-père était un juif d'Odessa, etc., et puis c'est trois générations qu'il y a plus du tout d'yiddish dans sa famille, enfin peut-être trois même ou quatre générations, enfin trois en tout cas à minima, et néanmoins quand elle apprenait le rôle en yiddish, elle arrêtait pas de dire it's in the back of my head, donc elle était toujours à l'arrière de ma tête, et elle disait ça me revient. Ça c'était étonnant, cette espèce de couche comme ça mémorielle ou d'ADN de la langue, hein. À tel point que le coach disait mais j'ai plus besoin de travailler avec elle, elle le fait de manière parfaitement naturelle. Ça a été le cas de quelques acteurs aussi, ça dans le film.
Je trouve que dans ton film il y a une résonance très forte avec tous les sujets que tu abordes, on parlera après de la partie technique, mais avec l'actualité en fait, parce que tu parles du sionisme. Il y a déjà cette discussion entre les religieux et les laïcs sur est-ce qu'il faut partir en Israël, alors c'est pas le nom d'Israël qui est employé, mais ça vestine, mais est-ce qu'il faut partir, est-ce qu'il faut rester, est-ce que c'est légitime. Il y a aussi la question d'égalité entre les hommes et les femmes, où les religieux ne travaillent pas et les femmes disent il faut que les religieux travaillent. Il y a toute cette question autour de l'économie en fait aussi. Est-ce qu'on doit travailler tout le temps? Est-ce que on doit se reposer pendant Shabbat? Est-ce que Shabbat c'est sacré? En fait, toutes ces questions sont aujourd'hui complètement d'actualité en fait.
Le lien avec l'actualité, c'est parce que ce sont des thématiques qui sont toujours d'actualité. Mais le monde du shtetl de l'époque est un monde qui est empreint de discussions dont on retrouve l'écho aujourd'hui, mais par exemple sur la question du sionisme, il faut se rendre compte que le sionisme est une idée marginale à l'époque, hein. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le film que, par exemple, pour tous les hassidim qu'on voit dans le film, alors attention, parce que les gens disent souvent se trompent, ils disent les juifs orthodoxes qu'on voit dans le film, c'est pas des juifs orthodoxes, c'est des hassidim, donc c'est un courant sectaire quand même mystique très particulier, pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup d'affection, et le film est en partie une déclaration d'amour à ce monde-là aussi. Mais quand je dis sectaire, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que c'est au sens propre du terme, c'est-à-dire pas au sens des gourous, mais au sens de il y a une vie presque d'une communauté dans une communauté. Donc c'est pour ces gens-là, par exemple à l'époque, l'émigration en Palestine est absolument inenvisageable. Enfin c'est le cas d'ailleurs. Si vous rajoutez là-dedans, les juifs orthodoxes dans leur globalité, l'idée d'une immigration en Palestine, c'est complètement hérétique. Enfin, c'est absolument impossible. C'est-à-dire, on ira vivre en Israël seulement que quand le Messie sera là. Donc, il n'y a absolument pas de possibilité, à part pour un petit comme ça. Il y a dans le film l'évocation des débuts du sionisme religieux, mais qui est très marginal par rapport au racisme et par rapport à cette question du sionisme. Et puis on voit toutes les autres tendances, en particulier le socialisme, le bundisme, le communisme, qui est extrêmement important. Toutes ces idéologies, évidemment, elles infusent à l'intérieur du shtetl, elles sont très très présentes, et donc évidemment il y a du débat. On retrouve ces oppositions par exemple aujourd'hui en Israël d'une certaine manière, c'est presque naturel, ça s'est fait de manière organique, mais c'est pas les mêmes objets. Tout à fait non plus, parce que c'est pas la même époque, c'est pas le même contexte, Et puis, c'est pas du tout la même réalité géopolitique non plus. Donc, par exemple, même l'immigration en Palestine, c'est à l'époque, le film se situe en URSS. C'est pas possible. C'est de toute façon pas possible. Ce sont des débats, j'allais dire, internes qui correspondent à des débats idéologiques qui courent quasiment depuis la fin du 19e siècle. Mais c'est vrai que les gens débattaient énormément. Les gens se posaient beaucoup de questions puisque c'était aussi un monde sur la brèche. Donc, c'était un monde où il y avait des menaces existentielles aussi qui pesaient sur eux. Et sur la question des femmes, pour terminer par rapport à votre question, oui aussi, c'est un monde où les années 20-30, dans les shtetls, les femmes prennent de plus en plus de poids, au sens où un certain nombre d'entre elles, voire beaucoup d'entre elles, s'intéressent aux idéologies, en particulier aux idéologies politiques de gauche, parce qu'elles y voient aussi évidemment une mécanique libératoire, hein, donc elles vont... pour beaucoup d'entre elles, adhérer aux idées socialistes, ou en particulier bundistes, hein, le Bund qui était très important et où les femmes avaient un rôle conséquent. Donc oui, ce sont des choses qui animent la bourgade juive de l'époque, dans les campagnes. Et dans les banlieues, un shtetl n'est pas forcément d'ailleurs à la campagne, ça peut être aussi une petite banlieue, ça peut être voire même une moyenne banlieue.
Enfin, il y a des phrases très belles dans ton film. Il y a notamment celle qui dit « Les Juifs n'ont qu'une couleur, c'est le gris ». Et c'est le secret de toutes les couleurs.
C'est le rabbin du village qui est joué par Saul Rubinek qui dit à un moment devant, effectivement, il est témoin d'une dispute très violente à la sortie de la synagogue où donc justement s'affrontent communistes, bundistes, partisans de l'assimilation qui sont aussi importants. Hein. Puis de l'autre côté, les racidim. Avec à l'intérieur des racides, un racide qui envisage une immigration en Palestine et qui se fait rabrouer par tous les autres, le rabbin sort de la synagogue et assiste à cette espèce de dispute générale qui est liée au retour d'ailleurs de l'enfant prodige à l'intérieur du village. Et il va leur dire d'une manière assez jolie, qui est celle que vous évoquez, lorsqu'il dit qu'effectivement les Juifs n'ont qu'une seule couleur, c'est celle qui contient tous les secrets, c'est le gris. Dieu a peint d'abord le monde en gris et que le gris a le secret de toutes les autres couleurs. Et en fait, c'est une métaphore, évidemment, pour dire qu'il faut rester nuancé et ne pas sombrer dans des idéologies d'opposition qui peuvent être mortifères, y compris pour le peuple lui-même. Ça, c'est une question tout à fait d'actualité quand on voit les divisions qui existent. Mais c'est vrai que je tiens quand même à dire que j'ai écrit le film à l'hiver 2018-2019. J'avais absolument aucune idée ni qu'il y aurait une guerre en Ukraine, ni qu'il y aurait les événements tragiques qui se sont déroulés récemment en Israël. Je n'avais pas du tout cette idée-là. Et puis, ce n'était pas du tout l'objet de mon film. C'est vrai que ça donne une espèce de poids tout d'un coup aussi au film que je n'avais pas du tout imaginé.
Ouais. Il y a aussi une autre phrase qui est « La foi ne peut rien sans les armes ». Et là, pareil, je me suis dit, mais aujourd'hui...
Alors, c'est le personnage principal prononce cette phrase, mais encore une fois, il est dans l'armée rouge, ce personnage. Donc, en fait, il revient et pour lui, le rempart face à la menace existentielle qui pèse, les nazis sont de l'autre côté, pour lui, il demande un réveil, un éveil en fait, des gens en leur disant, et d'ailleurs, un certain nombre de ces gens-là le feront, c'est-à-dire qu'en fait, je fais plutôt référence ici à ce qui a été très bien décrit dans les romans et dans les livres d'un auteur que j'adore, qui s'appelle Aaron Appelfeld, qui, avant d'être israélien, était ukrainien, il vient d'Europe, et donc ces gens-là vont se retrouver partisans dans les forêts, c'est-à-dire, en vérité, c'est plutôt à ça que je fais allusion, ou alors ils vont fuir avec l'armée rouge. J'ai souvent dans des débats qu'on anime après les projections, ça m'arrive d'avoir des gens qui y voient une allusion directe à la question sioniste ou israélienne, etc. Mais c'est pas le cas du personnage vraiment, c'est plutôt un appel. Mais on peut y voir ça, c'est-à-dire il y a pas de problème à y voir ça.
C'est une phrase dans l'absolu qui a du sens, de se défendre en fait.
Voilà, c'est ça. Donc il demande aux gens qui l'entourent d'avoir conscience que la défense passe par effectivement une action, j'allais dire presque d'autodéfense en fait, une action de voilà. Il faut souligner qu'il y a eu quand même ça, il faut leur rendre aussi honneur et hommage. Il y a eu énormément de partisans juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et de résistants de manière générale d'ailleurs, de résistants juifs en particulier en Occident. Mais dans le Yiddishland, ils ont été extrêmement nombreux à prendre les armes et à être dans les forêts. Donc c'est aussi l'image des juifs qui se sont laissés abattre comme des moutons, etc. Ça, c'est une image complètement déjà qui est scandaleuse parce que les gens évidemment n'avaient pas le choix face à la mécanique héritée en phase 2. Et surtout, il y a eu énormément d'actes héroïques et de véritables héroïnes, de véritables héros. Il y a eu beaucoup de femmes dans les partisans aussi. Donc ce personnage-là, de Mendeleu, il est ça. C'est-à-dire, en fait, il dit, il va falloir vous réveiller et la lutte, elle va commencer.
Ouais. Et ton film...
On est en 1941, aussi... enfin, les nazis sont en face. Hein.
Ouais. C'est juste avant la Shoah, ouais. Ce qu'on appelle la Shoah. Et ton film a aussi une très belle déclaration d'amour au cinéma, parce que ton héros, donc celui qui est fils prodige, qui a envie d'épouser la fille du rabbin, qui revient, et est aussi, en fait, mu par la passion du cinéma. Alors, tu évoques Tarzan dans le film. Alors, pourquoi tu as choisi Tarzan? C'est le film de l'époque.
Alors, Tarzan, en fait, c'est le rabbin qui dit, il confesse, même si c'est un mot un peu malheureux, mais il confesse avoir été au cinéma en 1920-1921. Il dit qu'il a vu un film qui s'appelle Tarzan. Oui. Effectivement, il y a eu un film en 1919 muet qui s'appelait Tarzan, qui était une production américaine de mémoire et qui a circulé en soviétique, qui a circulé dans le monde entier. À l'époque, on pouvait voir encore des films. Et donc, c'était un sort de cinéma itinérant. Les gens voyaient ça dans les campagnes, ils se rassemblaient pour voir des films muets. Et donc, Tarzan, effectivement, un film muet qui a circulé à l'époque. C'est pas le Tarzan avec Johnny Weissmuller qu'on connaît. C'est un Tarzan muet produit en 1918 ou 1919. Ouais. Donc, il date vraiment des débuts du cinéma, avant le cinéma parlant. Donc, oui, il y a aussi des tas de moments dans le film qui sont des tributs directs à des réalisateurs importants pour moi. Évidemment, Orson Welles, les 14 minutes de plan séquence de La Soif du Mal, ça m'a fortement influencé. Il y a effectivement des films comme La Corde de Hitchcock, aussi en plan séquence. Il y a plein de références à différentes cinématographies. Je pense aussi au cinéma soviétique et en particulier à ce réalisateur ukrainien absolument génial qui s'appelle Donskoy, qui est d'ailleurs mentionné dans le film. C'est un cinéaste qui est très oublié malheureusement, mais qui a eu beaucoup de prix, qui a été au Festival de Cannes, qui est vraiment un grand réalisateur, qui a fait un film, s'il faut en voir un, il s'appelle Le Cheval qui pleure, c'est un magnifique film, je recommande aux gens de voir. De toute façon, regarder tous ses films, c'est beau. Alors il a fait, malheureusement, entre guillemets, mais enfin pas malheureusement, parce qu'ils sont beaux aussi, mais enfin il a fait des films de propagande, évidemment, à l'époque il fallait faire des films de propagande pour gagner sa liberté, et donc il a fait à côté des œuvres beaucoup plus personnelles. Et il a adapté les romans de Maxime Gorky, qui était un auteur soviétique, etc. Mais il a fait aussi ce film sublime qui s'appelle donc Le Cheval qui pleure, qui est très très beau. Et tous ces films, d'ailleurs, travaillent la lumière en noir et blanc. Et donc, dans le travail avec le chef opérateur Volodymyr Ivanov, il y a aussi cet hommage-là. Il y a plusieurs cinématographies qui sont convoquées. Il y a 24 heures dans la vie aussi d'Ivan Lépin, qui est un film russe, soviétique, très beau, qui bascule aussi du noir et blanc à la couleur, etc. Donc, il y a plein de références. Il y a L'Arche russe de Sokourov aussi, qui est un plan séquence qui se passe dans le musée de l'Ermitage. Je cite beaucoup d'auteurs russes, là. Donc, même si c'est un film ukrainien, donc, dans le contexte actuel. Mais enfin, moi, ça va vous parler, j'imagine, mais enfin, je suis contre tous les types de boycott culturel, moi. Bien sûr. C'est absolument monstrueux, les gens qui boycottent culturellement. Donc, il ne s'agit pas de renier non plus la cinématographie russe et soviétique. Elle est très riche.
Absolument.
Et elle m'a aussi beaucoup influencé. Donc, il y a plein de cinématographies qui sont convoquées. Voilà, j'en ai cité quelques-unes.
Justement, j'avais une question par rapport à la technique, puisqu'on y vient. Donc, c'est tourné en plan séquence, je crois. Enfin, il y a plusieurs plans séquences que tu as tournés. Et donc, il donne cet effet, en fait, qui est à la fois... il y a vraiment une continuité et en même temps une espèce d'urgence dans le film où on a l'impression que enfin, qu'il y a un long cheminement et que c'est très spontané, très fluide, et ça c'est très fort. Et il y a aussi quelque chose sur la couleur, en fait, les scènes du passé tu les filmes en couleur et les scènes du présent sont filmées en noir et blanc, enfin de l'action sont tournées en noir et blanc. Donc, par rapport à ta formation au cinéma, par rapport à tout ça, donc, là tu as parlé des plans séquences, en effet, et c'est un hommage à tout ce que tu aimes, etc. Mais comment ça s'inscrivait par rapport à l'histoire que tu voulais raconter?
C'est-à-dire, moi j'ai eu l'idée du dispositif en même temps que le narratif. Enfin, c'est-à-dire, moi j'ai presque d'abord eu l'idée du plan séquence, en fait, parce que je me suis dit, j'évoquais au début de l'entretien le problème historiographique que j'ai avec les films qui parlent de la destruction et de la mort, et moi je voulais mettre en scène la vie, et donc je me suis dit, c'est l'histoire d'un type. Vraiment, ça m'est arrivé comme ça. Donc je me suis dit, je vais raconter l'histoire d'un type qui revient au village pour empêcher un mariage arrangé, il peut pas l'accepter, et donc il va revenir partir avec l'être aimé qui elle-même est amoureuse de lui, et donc ils ont tout un plan pour s'évader, sauf que cette évasion sera contrariée et finalement impossible parce que le village sera attaqué, et donc il revient au mauvais moment. Il revient une journée avant l'attaque surprise des Allemands sur l'Union soviétique. Et donc, il rentre au Shtetl, il rentre au village, et il n'en sortira jamais. Voilà. Et donc, évidemment, pour moi, cette idée-là, cette histoire, vous parliez de Roméo et Juliette, c'est absolument vrai. Il y a une dimension très shakespearienne. Moi, j'ai relu Roméo et Juliette avant d'écrire mon film. Hein, donc, et je dis relu, ça fait très prétentieux. Je me souviens même pas vraiment l'avoir lu à l'époque. Donc, je l'ai lu. Mais j'avais lu d'autres pièces de Shakespeare, en fait, en vérité, j'avais surtout vu au théâtre, en fait, en vérité, parce que j'ai toujours bien aimé Shakespeare. C'est très romanesque, Shakespeare. Enfin, je trouve ça plus flamboyant que Molière, en fait. Donc, Molière, ça m'a toujours un peu fait chier. Pas vraiment fait chier parce que c'est beau aussi, mais c'est plus comique, c'est français, quoi. Il y a un côté un peu caustique, comme ça, on se moque un peu de tout, etc. Bon, c'est très français, quoi. C'est très, à tout le moins, parisien. Et donc, je connais ça par cœur. Shakespeare, c'est quelque chose de beaucoup plus flamboyant. C'est très tragique. Hamlet, c'est quand même un truc extraordinaire. C'est d'une puissance narrative dingue. Donc, il y a une dimension beaucoup plus shakespearienne, en fait, dans ce que j'ai écrit, au sens où, effectivement, c'est une histoire d'amour tragique. Donc, c'est ça, c'est très shakespearien. C'est vrai que le roi Lear, Hamlet, ces choses-là, enfin, c'est des trucs quand même, c'est une dimension complètement folle. Et pour moi, je me suis jamais posé autrement la question que de le faire en conséquence. Parce que c'était évidemment, voilà, ce personnage, on allait partir avec lui, revenir au village avec lui, s'évader avec l'être aimé avec lui, et puis mourir avec lui. Donc, on pouvait pas en sortir de cette mécanique. Et donc, faire du chant contre chant et de la coupe, ça m'intéressait absolument pas. Un parti pris, il y a des gens qui détestent ça, il y a des gens qui n'aiment pas les conséquences, ils ont l'impression de se faire capturer, emprisonner, c'est-à-dire ils ont l'impression d'être otages finalement du principe filmique, enfin du cinéaste, etc. Mais c'est un parti pris que j'assume totalement, c'est un dispositif que j'assume totalement.
Ouais, on est pris dans l'histoire. Et voilà. Justement, ça, j'imagine, ça a dû demander beaucoup de préparation en amont.
Oui, c'est un travail avec le chef opérateur sur un logiciel très compliqué. D'abord, on a été voir beaucoup de peintures, on est allé à la Pinacothèque de Munich parce qu'on voulait revoir des peintures d'un peintre flamand qui s'appelle, on voulait voir des peintures d'un peintre flamand qui s'appelle Hans Memling. Il a peint un magnifique tableau qui est une sorte de village monde. Donc ça, c'était quelque chose qui nous intéressait beaucoup. Donc on avait tout un travail de sur l'iconographie vraiment picturale, hein, c'est-à-dire de l'histoire de la peinture et en particulier ce peintre, donc Hans Memling. Donc ça, c'était vraiment tout le travail sur la lumière. Puis ensuite, on a commencé à discuter des mouvements de caméra. Moi, j'ai consommé, entre guillemets, beaucoup de danse contemporaine. J'aime beaucoup la chorégraphie.
D'accord,
oui. Ouais. C'est très chorégraphié, le film.
Ouais, donc, très chorégraphié, ouais.
J'ai adoré la danse contemporaine. J'en ai vu énormément à une époque. Donc, je suis très marqué par des trucs comme la Judson. Enfin, c'est la Judson Avenue. Ou Barashnikov, enfin des choses, voilà, des grands, Barashnikov, des grands, des écoles de danse en tout cas très importantes qui m'ont marqué. Puis ensuite est venu vraiment le travail de comment on allait composer ce plan séquence, puisque c'est un film sous la forme du plan séquence et que donc il s'agissait de mettre bout à bout une trentaine de plans séquences, dont certains très lents, les raccorder en lumière naturelle parce qu'on était quand même beaucoup en lumière naturelle, parce qu'il fallait quand même le sentiment en 24 heures, enfin, en 1h45 de film, on traverse 24 heures, c'est 24 heures représentant un monde entier qui s'apprête à être englouti. Donc, c'est beaucoup de travail, donc ça a été effectivement une mécanique très lourde. Il fallait passer d'une grue de 8 mètres à un buggy, donc une voiture qui, voilà, puis le steadicammer qui prenait la caméra sur le buggy, et puis la caméra qui partait sur un drone. Une sorte de principe de domino comme ça.
Combien de temps a duré le tournage en tout, enfin entre la préparation, le film en fait, entre la préparation du film et le tournage?
Le tournage a duré environ, j'ai amené mon main cast, enfin mon équipe d'acteurs principal, dizaines de jours, deux semaines avant le tournage. Je les ai fait répéter dans le décor. Donc ça, pour moi, c'est déjà presque du tournage parce qu'il fallait être extrêmement prêt vu les contingences et le défi technique et les challenges qui nous étaient posés. Il fallait absolument qu'ils soient extrêmement prêts. Donc pour moi, c'était presque du tournage parce que à ce moment-là, je posais tous les mouvements de caméra. J'ai toute la direction d'acteur en amont. C'est rajouté à ça 5 semaines, donc je dirais 7 semaines.
Mais c'est quand même assez court.
C'est normal.
Normal.
Okay. Ouais, c'est une durée normale.
Par rapport à la musique, comment t'as choisi le compositeur? Tu travailles toujours avec la même personne ou...
Non, là, c'était la première bande originale d'un compositeur qui est très, très, très bon, qui est un musicien qui a eu le prix du disque France Inter, etc., qui s'appelle David Federman.
Oui, c'est ça.
Qui avait travaillé avec moi sur des documentaires dans le passé, et donc il a composé une musique tout à fait originale. est très singulière et qui apporte énormément au film.
Non, si tu veux bien, on va écouter la musique composée par David Federman. Mmh. Lolo Yusuf al Kirsa Yudi Kure Ad Di Savida Sibrus di Echod Kigav Nudile Le Meve Echod Ve Echod Le Meve Est-ce que tu as du nouveau sur l'endroit où tu as tourné, puisque depuis il y a eu la guerre et...
Ouais, alors c'est compliqué de savoir. Il y a beaucoup les producteurs ukrainiens nous ont dit que le décor avait été utilisé par une, surtout quand on connaît la fin du film, c'est particulièrement étrange, mais le décor a été utilisé par une unité de tank de l'armée russe, donc ils ont habité dans le décor apparemment pendant un certain temps. Je sais que la région est minée, je sais que c'est très compliqué d'avoir donc en tout cas ce que je peux dire avec le plus de certitude possible, c'est que ce que je le sais par les producteurs ukrainiens, donc j'y suis pas allé moi-même, donc je peux pas vous dire, faire attention avec ce que je dis, mais je ne sais pas non plus à quel point ça a été utilisé par l'armée, etc. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le décor s'est trouvé complètement pris en zone de guerre. Ça c'est vrai. La post-production du film elle-même a été arrêtée par la guerre, donc on a dû retourner en Ukraine pendant la guerre en mars 2022 pour récupérer les masters du film qui étaient trop lourds. C'est pas par internet, donc il fallait récupérer les bandes du film, les bandes originales du film. Donc on a dû retourner effectivement pendant la guerre rechercher tout ça. Assez fou, parce que déjà que le tournage était empreint de la guerre qui arrivait, puisqu'on savait que on sentait que la guerre allait arriver, et que donc de devoir revenir pendant la guerre ensuite pour récupérer le film, c'était une aventure en soi.
J'avais une question à te poser. T'as enlevé un E au nom Shtetl, donc est-ce que tu veux bien me répondre?
C'est un hommage direct à un écrivain très célèbre qui s'appelle Georges Perec, et donc au roman La disparition. Et adolescent, mes parents m'avaient dit tu devrais lire ce livre. Et à l'époque j'étais déjà préoccupé par ces questions-là. Et puis j'avais dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et puis mes parents m'avaient dit ah c'est un livre, tu verras c'est génial. Il a écrit 500 pages sans la lettre E. J'ai dit bon c'est sympa, mais enfin ça a peut-être un peu m'emmerder de lire un livre avec comme ça sans la lettre E. Et puis ils m'ont dit non mais t'as tort, c'est-à-dire le E en fait c'est, tu vas comprendre, c'est pas la lettre E, c'est E, c'est-à-dire c'est
ouais.
c'est sa famille assassinée dans les camps et le E c'est le peuple qui manque. Et donc j'avais trouvé ça très émouvant et donc c'est une histoire entre guillemets l'histoire même du roman est quelque chose qui m'avait beaucoup touché avec lequel j'ai toujours vécu un peu d'une certaine manière et donc j'ai voulu lui rendre hommage.
Merci beaucoup à Adi Walter d'avoir été avec nous aujourd'hui pour le film Shtetl qui sort en salle donc mercredi 7 décembre.
Voilà, dans tous les bons MK2.
Dans tous les bons MK2, très bien.
Voilà.
Je vous remercie d'avoir écouté Falafel Cinéma. Vous pouvez me retrouver aussi sur un blog bilingue anglais qui s'appelle Movie in the Air. Vous pouvez vous abonner. Et comme ce podcast n'est pas sponsorisé, vous pouvez aussi acheter mon premier roman, Nous à Narnou, publié aux éditions de Beauvilliers, qui est une dystopie sur la mémoire. À bientôt, merci et shalom, shalom.
Shalom. Et Rak Samea.
Special for you to remember Israel.